Trois quarts de siècle après l'effondrement de 1940, la collaboration demeure le plus délicat des problèmes posés par la défaite et la division de la France. Pour qui se refuse aux idées reçues ou aux caricatures, la raison en est simple. Il s'agit d'un concept générique, flou, que l'on a dès la Libération chargé d'une mission impossible, consistant à ranger sous une étiquette commune des Français d'origine, de motivation et de conduite très différentes, souvent contradictoires. Par nature, la collaboration ne pouvait être un bloc, car elle groupait pêle-mêle toutes les variétés des types et des comportements humains, et qu'en outre, dès juin 1940, elle comprenait une infinie variété de formes et de niveaux. Elle n'a jamais inspiré une politique clairement déterminée, fixée une fois pour toutes, car elle exigeait une adaptation permanente aux circonstances, aux exigences de l'occupant, à l'opinion des Français, au déroulement de la guerre mondiale. Elle recouvre un large éventail d'idées et de comportements qui ne se laissent pas facilement cerner, qu'il est impossible d'enserrer dans un cadre rigide. Son existence n'en a pas moins laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la France contemporaine.
Un phénomène sans précédent dans l'histoire de France.
Une longue tradition d'historiographie militante, d'Henri Guillemin à Annie Lacroix-Risse, s'est efforcé d'établir des similitudes entre les épisodes de défaite militaire suivis d'une occupation étrangère, 1814-1819 et surtout 1870-1873 et 1940-1944, pour dénoncer la tendance défaitiste, capitularde, voire purement et simplement collaboratrice des élites françaises, qui aurait ainsi cherché dans les armées étrangères le rempart contre le péril de la subversion intérieure, de la Commune de Paris en 1871 à la poussée sociale du Front populaire en 1936. En 1974, dans un ouvrage devenu un classique, l'essayiste et critique littéraire Henri Guillemin, 1903-1992, adepte d'une contre-histoire, dressait le parallèle entre le comportement des élites françaises, les gens de bien, de 1870-1871 et celui de leurs héritières de 1936-1940. Dans les deux cas, un ultra-pacifisme tendant au défaitisme qui n'aurait été dicté que par la volonté de défendre l'ordre social intérieur menacé. Ces analyses relevant avant tout d'une histoire engagée, pour ne pas dire partisane, n'aide pas vraiment à saisir ce qui se joue en France entre 1940 et 1944. On comprend mal, par exemple, pourquoi cette même bourgeoisie française, entre deux phases défaitistes, serait brusquement devenue cocardière et nationaliste en 1914, alors que la Belle Époque a été marquée par une série de vifs conflits sociaux et la montée inexorable d'un puissant mouvement ouvrier dans sa forme syndicale ou politique.